France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Peut-on faire confiance à la justice en matière de lutte contre les violences faites aux femmes? La question a été posée publiquement il y a quelques jours par l'actrice Adèle Haenel, qui a porté des accusations d'attouchement et de harcèlement contre le réalisateur Christophe Ruggia, qui nie les faits. La comédienne, elle, a choisi de ne pas porter plainte, ce qui n'a pas empêché le parquet d'ouvrir une enquête préliminaire. « La justice nous ignore, on ignore la justice », a dit Adèle Haenel en dénonçant une violence systémique. C'était chez nos confrères de Mediapart.
C'est un viol sur 10 qui aboutit à une condamnation en justice. Ça veut dire quoi? Des 9 autres? Je veux dire, il y a tellement de femmes qu'on en voit se faire broyer. La faute, c'est elle. Alors comment elle s'est habillée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a bu? Mais arrêtons, quoi.
2 ans après MeToo, les plaintes pour viol sont en hausse, mais les condamnations, elles, sont en baisse. On tentera de comprendre pourquoi. On se demandera si la justice fait vraiment tout ce qui est en son pouvoir pour poursuivre et condamner les auteurs de violences, pour les prévenir également, car les féminicides aussi sont en augmentation. Celui qui a eu lieu le week-end dernier en Alsace, où une femme qui avait porté plainte et appelé à l'aide les gendarmes a été tuée par son compagnon, nous interpelle tous. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a même fait son mea culpa ce matin chez nos confrères de LCI.
Collectivement, nous ne sommes pas à la hauteur de ce type de situation. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons rien fait, que les magistrats ont failli. Je dis simplement que collectivement, notre système ne fonctionne pas pour protéger ces femmes.
Constat d'échec dressé par la ministre de la Justice elle-même à quelques jours de la fin du Grenelle contre les violences faites aux femmes. Alors ce soir, on ouvre le débat sur France Inter et on donne la parole à 2 acteurs de la justice qui sont confrontés à ce genre de situation au quotidien, sachant que la réponse ne sera pas que judiciaire ou policière, elle sera aussi sociale, éducative, politique. Avec nous pour aborder tous ces sujets et répondre à vos questions, Maître Laure Hennick, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate au barreau de Paris. Et puis Éric Corbeau, bonsoir.
Bonsoir.
Procureur de la République de Pontoise, dans le Val-d'Oise, bonsoir à vous. Et puis Sophie Parmentier, du service enquête justice de France Inter, bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Pour nous les interroger, eh bien 01 45 24 7000.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite un premier appel de Colombe qui est à Paris. Bonsoir Colombe.
Bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne de France Inter, on vous écoute.
Merci. Alors, moi, quand j'ai entendu le sujet d'aujourd'hui, ça m'a juste fait repenser à ce qui m'est arrivé il y a quelques années. J'ai porté plainte suite à une agression sexuelle. J'étais pas la seule, on était une quinzaine agressées par la même personne. Donc, suite à l'enquête, on se retrouve au tribunal. Et lors de l'audience, je suis donc la seule plaignante présente. Et le juge ou la juge, parce que la juge était une femme, la juge me dit, je vais vous poser des questions, vous répondez juste par oui ou non. Et elle me dit, maintenez-vous votre plainte ou de l'eau est passée sous les ponts et vous êtes passé à autre chose et donc vous ne maintenez pas votre plainte. Voilà. J'ai répondu oui, puisqu'on m'avait dit oui ou non, mais je trouvais la question quand même assez étonnante. Voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé, Colombe, après ?
Après, on nous a alors, au tribunal même, on m'a demandé si je souhaitais une indemnité, s'il y avait eu une ITT. Et on m'a fait savoir que la personne avait une obligation de suivi, une obligation de soins, qu'elle était actuellement incarcérée. Et voilà, plus rien.
Donc vous avez eu un sentiment d'incompréhension, c'est ça ?
Davantage, autant au commissariat, ça avait été pris très au sérieux, j'avais l'impression que là, c'était pas pris au sérieux. C'est pas bénin. Une quinzaine de plaintes pour une agression, pour des agressions sexuelles, des mineurs qui ont été agressés. Et on vous dit ça comme si c'était une atteinte sur un bien et non sur une personne. Donc, voilà.
Merci. Merci Colombe d'avoir appelé France Inter. Maître Laure Hennick, comment vous réagissez quand vous entendez ça? Vous êtes surprise déjà?
Je suis un peu surprise parce que c'est quand même un peu exceptionnel ce que raconte Colombe. Je suis pas tendre avec les magistrats en général, mais c'est quand même assez rare que les magistrats procèdent de cette manière. Alors la justice est froide, la justice est inhumaine et la justice est uniquement là, c'est vrai, pour caractériser une infraction. Donc la victime, qu'on appelle d'ailleurs pas victime, mais partie civile, passe au second plan. Et d'ailleurs, en Europe, globalement, dans les pays européens, il n'y a pas de victimes dans les procès pénals. Et c'est vrai que c'est une place très particulière d'être partie civile dans un procès pénal. Mais là, on peut tout à fait déplorer la façon dont ça s'est passé. Et c'est aussi pour ça que c'est très important d'être assisté d'un avocat, parce que l'avocat serait intervenu, alors que c'est difficile quand on est victime, bien naturellement, devant une juridiction, et qu'on se retrouve comme ça avec une phrase qui n'a absolument aucun sens, en fait.
Éric Corbeau, vous qui êtes procureur de la République à Pontoise, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Colombe, mais après je voudrais vous demander de réagir à ce qu'a dit la garde des Sceaux aujourd'hui. Mais dites-nous sur Colombe peut-être d'abord.
Oui, non, mais ce que vient de dire effectivement Maître Aynichet est juste. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que on est sur des magistrats qui ont les parties civiles sont parties au procès depuis toujours dans notre système judiciaire. Donc on a aussi l'habitude de les entendre, de les écouter et de faire en sorte qu'ils soient présents et représentés autant que faire se peut par des avocats au sein du procès pénal. Après, c'est vrai que ça pose la question de l'accompagnement des victimes dans le processus judiciaire. Comme le disait Maître Aynichet, c'est un processus qui est difficile, qui est douloureux, qui est long, qui peut apparaître comme inhumain. Et comment on fait pour accompagner, peut-être dès le départ, dès la prise de plainte au commissariat, comment on fait pour accompagner la victime tout au long du processus? Et ça, c'est le point, un des points centraux sur lequel je crois qu'il faut que l'on travaille collectivement.
Alors on va y revenir à la fois sur la plainte, sur l'instruction, sur après les condamnations et pourquoi est-ce qu'elles sont en baisse dans les cas de viol. On va revenir sur ces différents points. Mais j'aimerais quand même vous entendre sur ce qu'a dit Nicole Belloubet tout à l'heure, parce que c'est quand même la garde des Sceaux qui dit notre système ne fonctionne pas. Alors elle réagissait au féminicide qui s'est produit dans le nord du Bas-Rhin. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous l'entendez dire ça, Éric Corbeau?
Oui, je commande pas les propos de la ministre, bien sûr, mais je crois qu'elle a fait.
C'est un constat d'échec.
Elle a exprimé quelque chose qui est que nous travaillons la justice, l'institution judiciaire. Tout le monde travaille sur ces problèmes, sur ces phénomènes. Et le travail s'est accentué ces derniers mois. On l'a vu, le Grenelle, tous ces éléments qui font que on concentre un peu les efforts sur la réflexion et l'action sur ces problèmes. Le fait est, c'est qu'il reste toujours des cas, des situations dramatiques, tragiques. Ce cas en Alsace que vous avez évoqué et que la ministre a évoqué en fait partie. Ça prouve bien que notre institution, à un moment donné, collectivement, n'a pas fonctionné, puisque une personne avait porté plainte, elle aurait peut-être pu, ou il aurait peut-être fallu qu'elle soit, à un moment donné, protégée par l'institution, mais aussi par une association, par peut-être un acte juridique, une ordonnance de protection, un téléphone grave danger, les outils qui sont à notre disposition. Ça n'a pas fonctionné. C'est donc bien qu'il y a eu, quelque part, un échec collectif de l'institution. Et l'augmentation des féminicides, que vous avez évoqué en introduction, est aussi la preuve que, voilà, nous travaillons sur ce sujet, la société travaille sur ce sujet, mais ne l'éradique pas.
Maître Lorenic.
Oui, enfin, on a quand même un problème de moyens. Moi, quand j'entends Madame Belloubet dire on n'est pas à la hauteur, enfin, la France est 27e au niveau des pays européens quand on regarde le budget qui est consacré à la justice. Alors, bien sûr, on fait des grenelles, questions-réflexions, on est très fort et on a des gens très performants, mais sans moyens, en fait, ça ne sert à rien. Donc, des paroles comme ça, c'est dommage. Il faudrait quand même qu'elle puisse venir dire aussi on est responsable, parce que c'est un choix politique, en fait, c'est pour ça que, pour répondre à votre question plus rapidement, on ne fait certainement pas le maximum et on ne pourra pas faire le maximum tant qu'il n'y aura pas les moyens qui seront donnés.
La réflexion est en cours. Sophie Parmentier, je me tourne vers vous, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, il y avait à la Cour de cassation un colloque sur ce sujet, oui. Les violences faites aux femmes, enfin plus précisément conjugales. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, qu'on commence à réfléchir sérieusement?
Il y a réellement une prise de conscience, et justement lors de ce colloque, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est intervenue également, et elle a insisté sur l'angle mort dans la protection des victimes, en disant qu'il ne fallait plus qu'il y ait d'angle mort et qu'il y ait un meilleur suivi des auteurs. Alors, à la Cour de cassation, vous savez que c'est François Molins, en fait, qui était à l'initiative de ce colloque avec l'École nationale de la magistrature, et François Molins, lui aussi, a insisté sur cette culture de protection des victimes et sur la formation qui devait être meilleure, donc en lien avec l'École nationale de la magistrature, où il y a déjà des formations qui existent depuis des années, mais on sent qu'il faut perfectionner tout ça, et donc il y a des groupes de travail qui se sont formés avec des magistrats qui ont présenté des kits pour mieux accompagner les victimes dès le dépôt de plainte. Justement, on sait que la parole est difficile à recueillir, et en fait ce qui est ressorti de ce colloque, c'est qu'il fallait que tous se parlent, non seulement les magistrats, mais aussi les policiers, les gendarmes, les associations, l'administration pénitentiaire, les médecins. Il fallait que l'information circule beaucoup mieux, qu'il y ait plus de fluidité. C'est ça qui fait que parfois, il y a des ratés.
Vous allez évidemment nous dire comment vous procédez à Pontoise, Éric Corbeau, mais on va d'abord prendre l'appel de Marie, qui est à Montreuil. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Vous avez eu à porter plainte pour une agression, pour des agressions ?
Oui, c'est ça. Dans ma vie, j'ai porté deux fois plainte pour violence sexuelle. Une fois il y a 3 ans pour agression sexuelle, où j'ai été très bien reçue. On m'a dit « on va vous rappeler, madame, vous inquiétez pas, on va poursuivre le dossier », mais j'ai jamais été rappelée, aucune nouvelle. Il y a 2 ans, j'ai porté plainte pour viol. Et pour celui-là, je me suis un peu plus accrochée, donc j'ai rappelé, je ne cesse de rappeler depuis 2 ans, tous les mois, tous les 2 mois. Mais à chaque fois, on me dit, il faut patienter, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas. Enfin, à chaque fois, on me renvoie à plus tard, rappeler dans 1 mois, rappeler dans 2 mois. Et en fait, j'en peux plus d'attendre. Surtout qu'il y a une autre victime de cette personne, et cette personne, elle n'est pas du tout inquiétée pendant ce temps. Et je ne sais pas ce qu'il a fait entre-temps, quoi.
Merci. Donc, merci Marie pour ce témoignage sur ces plaintes qui restent sans réponse pour l'instant. Maître Lorénic, ça arrive ce genre de choses ?
Je ne suis pas du tout surprise. Effectivement, les enquêtes préliminaires durent comme ça pendant des années, hein, parfois. Donc une femme va déposer plainte pour un crime. Avant, il y a quelques années, il y avait toujours l'ouverture d'une information judiciaire, c'est-à-dire qu'on désignait un juge d'instruction très rapidement. Et un juge d'instruction, en fait, c'est un interlocuteur. Donc vous avez un avocat, vous avez quelqu'un avec qui parler, l'avocat peut aller frapper à la porte du juge d'instruction, savoir où on en est, et pouvoir répercuter comme ça les éléments à la femme qu'il défend. Le parquet, aujourd'hui, décide de ne plus saisir de juges d'instruction. Et donc, on a ce qu'on appelle des enquêtes préliminaires. Ce sont les commissariats qui sont en charge, avec un parquetier qui surveille, mais on ne connaît pas son nom. Et les enquêtes durent comme ça. Et effectivement, les femmes ne sont pas du tout avisées de là où on en est. Et les commissariats, et je les crois volontiers, disent qu'ils sont surchargés. Mais on peut attendre comme ça. Et alors, vous avez des agresseurs qui peuvent continuer à perpétrer des faits. Ou alors, moi, j'ai le cas d'une femme qui a déposé plainte, qui a été agressé par son grand-père, et on se dit que finalement celui-ci va finir par mourir. Enfin, il y a vraiment des délais qui sont très très importants à respecter, c'est pas du tout le cas.
Éric Corbeau, vous qui êtes procureur de la République à Pontoise, quand il y a une plainte comme celle de Marie, qu'est-ce que vous faites ? Vous saisissez un juge d'instruction ou c'est une enquête préliminaire ? Comment ça se passe ?
Effectivement, pas systématiquement, un juge d'instruction va être saisi d'une affaire lorsqu'elle peut être traitée sous une forme, soit dans le cadre de la flagrance, si c'est un fait flagrant qui vient de se commettre, ou soit en enquête préliminaire, c'est-à-dire dans la durée. Mais il faut là aussi mettre en place des organisations et des processus de suivi des procédures en question, et des plaintes en question, et des PV qui sont dressés par les enquêteurs. Dans un premier temps, il faut saisir le bon service. Parce que les services de police, il faut saisir de bons services de police et d'enquête qui sont spécialisés en la matière. Ils sont pas suffisamment nombreux, c'est vrai que ça peut être un problème. Ensuite, il faut pouvoir suivre ces affaires en enquête préliminaire si on décide de ne pas ouvrir une information judiciaire. Et ce qu'on met en place, c'est des bureaux des enquêtes, c'est-à-dire avec des rappels réguliers des procédures pour qu'on puisse effectivement redemander et rappeler les policiers pour dire où vous en êtes, est-ce que vous avez fait les actes qu'on vous a demandés. Donc ça nécessite un suivi, et là aussi peut-être la désignation au sein des parquets, ce que disait Maître Heinich tout à l'heure, il faut désigner au sein des parquets des magistrats référents qui vont suivre ces dossiers spécifiquement.
C'est ce que vous avez fait à Pontoise ?
C'est ce qui se passe à Pontoise, puisqu'on a des organisations en bureau des enquêtes avec des magistrats désignés comme référents des dossiers à qui on confie le suivi des dossiers.
Ça veut dire que chaque juridiction fait un petit peu ce qu'elle veut ? Vous avez une politique bien précise à Pontoise, et ailleurs ça va être autre chose. Chacun fait ce qu'il veut dans son coin, c'est ça ?
Non, il y a déjà des circulaires générales qui donnent des instructions en matière de conduite de l'action publique, hein, qui existent. La dernière de mai dernier sur la lutte contre les violences faites aux femmes, par exemple. Donc, qui donne les grands axes sur lesquels il faut, sur lesquels il faut travailler. Après, je rejoins très rapidement cette question des moyens qui a été évoquée tout à l'heure. Dans l'Europe, du Conseil de l'Europe, hein, la moyenne des procureurs pour 100 000 habitants, c'est 13 procureurs pour 100 000 habitants. En France, c'est 4.
La misère de la justice
4
française.
4 procureurs pour 100 000. Dans l'Europe, dans 47, c'est 13 procureurs pour 100 000 habitants. Bon, ça, c'est un fait. Il est comme il est. Pour l'instant, moi, c'est pas mon, c'est un sujet. Moi, je fais avec les moyens dont je dispose. Et dans ces cas-là, il faut changer. Et c'était les propos de François Molins lors du colloque que vous avez évoqué tout de suite et de la garde des Sceaux qui était présente au colloque aussi. Et ça prouve quand même le portage et le niveau de portage de ces sujets. Et ce qu'il faut, c'est qu'on change la culture. Hein, il faut qu'on change la culture du système judiciaire pour retrouver et recouvrer la confiance des justiciables.
Encore une question sur la politique pénale en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Est-ce qu'il arrive que la ministre de la Justice réunisse les procureurs et leur dise, ben voilà, à partir de maintenant, c'est tolérance zéro, vous allez agir dès la première plainte, etc. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas, ça, dans notre pays?
Oui, bien sûr, ça existe. Et je vous dis, il y a des circulaires qui sont des instructions qui sont données de politique pénale, qui sont données aux procureurs, qui sont mises en œuvre par les procureurs généraux et après qui sont appliqués par les procureurs directement sur le terrain. Voilà, c'est des choses qui sont faites et qui sont là aussi sur lesquelles il y a des comptes rendus que nous devons faire régulièrement à la garde des Sceaux.
Laure Hennig, vous...
Oui, enfin, la réalité du terrain quand même, c'est que quand une femme va dans un commissariat pour déposer une plainte, on lui dit non mais madame, faites simplement une main courante, hein, ce qui va ne diligenter évidemment aucune poursuite, et c'est de cette manière-là qu'elles sont reçues. Alors quand vous disiez Claire Servagent tout à l'heure, chacun fait un peu ce qu'il veut, ben oui, en fait, il y a la loi, et puis alors c'est peut-être aussi chacun fait comme il peut en réalité, mais on comprend bien quand même le découragement des femmes, même si on est là aussi pour leur dire, mais il faut aller dans les commissariats parce qu'on fait ce qu'il faut, on essaie de faire ce qu'il faut derrière, mais on comprend bien le découragement.
Sophie Parmentier.
Non, mais je crois qu'on en revient à cette histoire de formation. Je pense que les policiers, les gendarmes reconnaissent qu'ils ont du retard en la matière dans l'écoute de la parole des victimes. Et effectivement, c'est compliqué d'arriver à l'accueil d'une petite gendarmerie dans un village où tout le monde se connaît, ou d'un grand commissariat où il y a plein de monde, et de raconter qu'on a été victime de violences sexuelles ou qu'on est victime de violences conjugales. Je me suis rendue il y a quelques semaines pour France Inter dans un commissariat un peu précurseur à Amiens, en fait, où là, par exemple, les policiers, quand ils sentent qu'il y a une femme qui a été victime de violence, eh bien, ils notent son numéro et ils orientent ensuite cette victime vers des policiers spécialisés. Ça, malheureusement, je pense que c'est encore pas général, et c'est ce qui a été évoqué au colloque aujourd'hui. Il faut une meilleure formation générale des enquêteurs et puis des magistrats, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas encore le cas. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a toutes ces femmes qui n'osent pas porter plainte. Il faut rappeler aussi que on estime qu'une femme sur cinq seulement va porter plainte, et que porter plainte, c'est compliqué. Par exemple, dans le cas des violences conjugales, eh bien, il y a 7 allers-retours en moyenne, des femmes qui se disent « j'y vais pas, je reviens », parce que c'est difficile de porter plainte contre le père de son enfant. C'est en tout cas ce que disent la plupart des femmes que j'ai pu interroger.
Non, la question, c'est effectivement, c'est une chaîne, hein, une chaîne de prise en charge de la victime. Il faut d'abord que cette chaîne, elle soit formée, qu'elle connaisse les mécanismes. Les mécanismes, c'est quoi? C'est ces mécanismes d'emprise. Les victimes, elles sont sous l'emprise du conjoint violent la plupart du temps. Donc il faut connaître ces mécanismes, parce qu'elles ont du mal à porter plainte, parce qu'elles sont sous l'emprise. Si on connaît, on peut traiter. Et ensuite, une prise en charge, effectivement, les mains courantes, qui sont désormais, dans la plupart des parquets, interdites, parfois, des femmes exigent d'avoir une main courante. Dans ces cas-là, si elles continuent à manifester cette volonté, ce qu'on fait dans le Val d'Oise, elles sont systématiquement orientées vers des intervenants sociaux en commissariat ou en gendarmerie qui les prennent en charge pour retravailler avec eux cette question d'emprise et cette question de l'importance de la déclaration, du procès-verbal, de la plainte qui va pouvoir permettre d'agir derrière.
Et je voudrais juste rajouter une toute petite chose. La plainte n'est pas non plus indispensable. Il y a des situations où, selon les faits, eh bien, le procureur, je parle sous le vote de contrôle, peut ouvrir une enquête lui-même. Et par exemple, pour Adèle Haenel, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Elle disait qu'elle ne voulait pas saisir la justice. Et comme vous le savez, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.
Une enquête préliminaire. Geneviève attend au standard de France Inter. Bonsoir, Geneviève.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, je suis du collectif Nous Toutes. Je voudrais vous rappeler que ce collectif appelle à une grande marche le 23 novembre pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et je voulais poser une question. Pourquoi est-ce que en France, on a eu 1300 ordonnances de protection, alors qu'en Espagne, ils en ont eu 23 000. Et en Espagne, le nombre de féminicides, il a diminué en grande partie grâce à ça. Et en France, il n'a pas diminué, il a augmenté. Voilà, pourquoi est-ce que les procureurs, je crois qu'ils n'ont même pas besoin de plainte pour ça, ne s'emparent pas de ce dispositif?
Merci beaucoup Geneviève pour cette question. Éric Corbeau, vous pouvez répondre à Geneviève et puis peut-être nous expliquer exactement aussi le processus.
Alors, l'ordonnance de protection, il n'est pas spécifiquement dans la main des procureurs. Il est d'abord dans la main, effectivement, des victimes et de leurs avocates qui peuvent saisir. C'est une procédure civile, l'ordonnance de protection. On saisit le juge aux affaires familiales. Ce n'est pas une procédure pénale. C'est une procédure civile par laquelle on saisit le juge aux affaires familiales dans une situation de danger. Et dans ce cas-là, le juge aux affaires familiales, avec les éléments qui sont au dossier, et dans le cadre du contradictoire, d'une audience contradictoire, où les deux parties vont être entendues, et en fonction des éléments qu'il a, va pouvoir décider d'une ordonnance de protection de la victime, et notamment imposer au conjoint violent des mesures d'éloignement, des mesures qui seront de nature à protéger la victime. Et si ces mesures sont violées, dans ces cas-là, c'est une infraction pénale qui peut entraîner condamnation.
Alors pourquoi est-ce qu'il y en a aussi peu en France ?
Parce que ce dispositif, il existe depuis plusieurs années. Il commence à monter en puissance, mais là aussi parce qu'il faut que ce travail soit un travail vraiment partenarial de tout le monde autour de cette problématique. On n'est pas à 1300, on est à plus de 2000 ordonnances de protection pour être un peu plus précis, mais c'est pas la question. La question, c'est comment on développe ces ordonnances de protection. Je crois que Maître Annick pourra en parler également. Ce qu'il faut là aussi, c'est que les éléments de preuve, c'est pas la victime d'avoir à les fournir. On peut les fournir et le parquet peut les fournir. On a mis en place en Pontoise depuis 2017 un protocole dans lequel nous fournissons parquet au juge d'affaires familiales des éléments de procédure pénale. Nous avons protocolisé avec l'unité médico-judiciaire, les médecins légistes qui font des certificats médicaux, pour que les certificats médicaux soient directement transmis au juge d'affaires familiales, ce qui permet au juge aux affaires familiales de prendre plus rapidement sa décision avec tous les éléments au dossier.
Maître Lorénique.
Oui, alors il y a quand même effectivement au sein du barreau beaucoup de formations en ce moment et puis depuis quelques années déjà sur l'ordonnance de protection pour la faire connaître, pour qu'elle soit plus usitée. Il y a quand même ce problème un peu de mélange des genres, c'est-à-dire qu'effectivement on se retrouve devant le juge aux affaires familiales pour une sanction qui est plutôt une sanction pénale finalement. Donc je pense que ça rend l'ordonnance de protection pas très lisible et qu'en réalité dès que vous avez une infraction pénale, vous pouvez aussi déposer une plainte s'il y a une réaction très rapide du parquet. Il peut y avoir une mesure d'éloignement avec un contrôle judiciaire. Il peut y avoir aussi une condamnation. On voit bien qu'il y a tellement d'affaires qui passent en comparution immédiate. Et puis l'éloignement qui soit dans la sanction pénale, qui a d'après moi beaucoup plus de vertu que devant un juge aux affaires familiales, beaucoup plus de force.
Nous allons partir cette fois à Montauban. Teddy est en ligne. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Oui, merci beaucoup. J'aurais aimé ne pas vous appeler, qu'on ne parle pas du tout de ce sujet, mais malheureusement, les choses s'empirent. Je trouve que vous parlez d'affaires pénales, mais moi je vous parle d'urgence. Donc avant que ça passe dans le pénal, je ne comprends pas pourquoi si, la femme ne peut pas quitter son domicile, là, déjà. Ou alors il faut qu'elle s'en aille comme une voleuse, comme si c'était elle qui avait commis un délit, souvent avec ses enfants sous le bras, pour aller je ne sais où. Les compagnons peuvent le retrouver sans aucun problème. Et il y a eu encore un drama hier matin, à 3h du matin, chez nous.
À Montauban.
À Montauban. Oui, donc vous le verrez dans les journaux, puisque l'affaire est en cours. Mais ces personnes ne... En fait, il ne faut pas protéger les femmes victimes de violences. Il faut éloigner les agresseurs. Il faut neutraliser les agresseurs. Qu'il y ait un suivi psychiatrique. On ne vous demande pas d'aller devant le pénal. On demande des affaires d'urgence. On les extrait du domicile avec interdiction de revenir, on les enferme, on les fait soigner, ils sont malades. Taper sur sa femme jusqu'à ce qu'elle meure, il ne faut pas être sain d'esprit. Il faut qu'ils règlent leur violence, leurs problèmes.
Merci Teddy pour cet appel. Éric Corbeau, effectivement, pourquoi ne pas commencer par éloigner le mari, le conjoint violent ? C'est ce que faisait le procureur Frémiot dans le Nord ? C'était sa ligne de conduite ?
Alors, ça se fait dans le cadre de procédures effectivement, de flagrance où on peut intervenir tout de suite. Et dans ces cas-là, où il va y avoir un placement en garde à vue, et il peut y avoir des mesures, on l'a vu, des mesures de contrôle judiciaire pendant le cours de l'enquête ou jusqu'à le passage en tribunal, où il peut y avoir une incarcération immédiate, même dans le cadre d'une comparution immédiate. Et effectivement, ça peut, ce cas peut se présenter. Par ailleurs, il faut quand même voir que ces procédures se traitent dans le cadre de notre règle procédurale, hein, qui implique des questions de preuve, des questions de contradictoire et, effectivement, la présomption d'innocence qui reste quand même...
Teddy disait le mot urgence, et c'est vrai que quand il y a urgence, c'est un peu compliqué.
En urgence, on a les moyens d'intervenir avec des placements sous contrôle judiciaire ou des placements en détention. Après, c'est pas et avec pas systématiquement l'enfermement comme il était dit non plus, puisqu'on est aussi dans une hiérarchie des peines et des sanctions. Mais dans les cas les plus graves, il est bien entendu question d'urgence. Il est bien entendu question d'abord d'éloigner d'éloigner le conjoint violent, avec la question aussi qui se pose et qui est là aussi nécessite une mobilisation de tous, c'est trouver des places d'hébergement parfois pour éloigner des conjoints violents, parce que la solution la plus simple, c'est souvent d'éloigner la victime, alors que elle est au domicile et elle a peut-être plus le droit d'y rester que le conjoint violent.
Maître Lorénique.
Oui, je voulais juste rebondir effectivement sur ce qui vient d'être dit, parce qu'il n'existe pas des hébergements. Mais là aussi, c'est un choix en réalité. Et à l'ouverture du Grenelle, Marlène Schiappa a dit qu'elle ne souhaitait pas débloquer des fonds, quand cette question justement a été évoquée d'éloigner les agresseurs et non pas les femmes, qu'elle ne souhaitait pas débloquer des fonds pour les agresseurs. Donc ça pose quand même une vraie question. Et la question d'ailleurs, c'est que pour agir en fait, et c'est ce que dit très bien Teddy, pour agir pour les femmes, il faut agir en fait pour les agresseurs. Il faut les soigner. Et c'était ça aussi qui était remarquable dans le témoignage d'Adèle Haenel.
Sophie Parmentier.
Oui, juste, je voudrais rajouter, j'ai rencontré il y a quelques jours un psychologue, justement, qui fait partie des groupes de travail autour du Grenelle et qui suit, en fait, des auteurs de violences et qui expose extrêmement bien cette problématique, c'est-à-dire que ces auteurs qu'il suit, quand ils sont éloignés du domicile trop longtemps, s'il n'y a pas de solution, il y en a qui dorment, alors je ne les plains pas, en fait, c'est simplement que la réalité est que quand ils n'ont plus de lieu où dormir, il y a un ressenti, m'expliquait-il, d'autant plus grand que finalement, parfois, la violence peut être encore décuplée. Donc c'est un vrai problème de trouver aussi une solution d'hébergement pour les auteurs, même si, en effet, on entendait le témoignage de Madame de Montauban, on se dit ben c'est pas à la victime de partir, mais voilà, selon ce psychologue, c'est un cas fréquent de violence finalement rentrée, de rage qui augmente chez l'auteur et ça peut être encore pire en fait au bout d'un certain temps.
Éric Corbeau, peut-être un mot des outils qui existent dans ce domaine, le bracelet anti-rapprochement par exemple, c'est quelque chose que vous utilisez à Pontoise ?
Pour l'instant, le bracelet anti-rapprochement n'est pas utilisable puisque la loi ne permet pas actuellement de l'utiliser. Ça a été un des points développés par la ministre de la Justice dans le cadre du Grenelle.
Sachant qu'il y a une proposition de loi qui vient d'être adoptée
par l'Assemblée nationale et qui est au Sénat, qui vise justement à généraliser et à mettre en œuvre ce bracelet électronique anti-rapprochement, qui sera un outil effectivement de protection supplémentaire. On a déjà le téléphone grave danger qui existe déjà, qui permet à certaines victimes d'alerter les services de police si elles se sentent en danger. On a les ordonnances de protection, on l'a évoqué, et ça c'est un outil supplémentaire. À Pontoise, nous avons fait la promotion de ce bracelet en demandant à être juridiction expérimentale, et on est ravis que la garde des Sceaux a pris ce dossier en main et proposé cette généralisation et cette mise en place de ce bracelet qui existe déjà en Espagne et qui a effectivement des résultats très intéressants pour l'éloignement et la protection.
Philippe est en ligne. Bonsoir Philippe. Champigny-sur-Marne, voilà, vous appelez de la région parisienne.
Bonsoir, je travaille dans une petite entreprise et j'assiste une de mes collègues qui était victime d'agression par son ancien conjoint. Elle nous a montré des photos de l'agression qu'elle a présentée au commissariat. Elle a porté plainte au commissariat pour 3 plaintes à agression, d'une part la dégradation à son domicile et une escroquerie. Et ça a mis plusieurs mois avant que son conjoint soit finalement retrouvé par la police et entendu. Et donc quand elle a appelé le tribunal pour savoir ce qu'il en était, on lui a répondu d'abord qu'on ne donnait pas d'informations par téléphone et qu'elle pouvait se présenter au greffe. Donc elle s'est présentée au greffe. Je rassure, le procureur de Pontoise, c'est pas dans son tribunal. Mmh. Et quand elle est arrivée sur place, on lui a dit « Ah bah attendez, pour avoir le droit de consulter le témoignage de votre ex-conjoint, il faut remplir un formulaire, ça ne sera pas tout de suite. » Et puis la dame lui a dit « Mais non, mais de toute façon, je regarde, mais vos 3 plaintes sont classées sans suite. » Maintenant, ma question, c'est d'abord, comment ça se fait qu'elle n'en ait pas été informée avant de se présenter au tribunal? Et puis maintenant, quels sont ses recours? Sachant que moi, j'ai lu, enfin, je suis pas un spécialiste, donc elle va maintenant prendre un avocat ou une avocate pour traiter sa question, parce qu'elles se sont complètement dépassées. Mais quels sont ses recours face à un classement sans suite pour des plaintes qui sont quand même graves, puisque moi, j'ai vu des photos, il y a des traces de sang dans l'appartement, il y a des coups de couteau sur elle, c'est quand même pas des choses anodines. Et comment ça se fait que ça en reste là? Voilà.
Merci Philippe pour ce témoignage. Qui veut répondre, Maître Lorénique, peut-être?
Oui, alors il y a un recours, on peut faire appel d'un classement sans suite. Ce sont des dysfonctionnements, effectivement. Alors la personne qui dépose plainte doit, elle, être avisée du fait qu'il y a un classement sans suite. L'auteur, lui d'ailleurs, parfois quand il est entendu, n'est pas avisé, ce qui est une anomalie également. Donc il y a toujours une possibilité de contestation. Mais effectivement, là, ce ne sont que des dysfonctionnements de la justice, et il y a de très nombreux classements en matière de violence.
En 2016, 33 000 plaintes, j'espère que mes chiffres sont bons, pour violences sexuelles, 73% classées sans suite. C'est quand même absolument énorme, Éric Corbeau, non?
Alors après, c'est la complexité de notre procédure qui nécessite effectivement, là aussi toujours, la question de la preuve, la question du temps, les prescriptions qui sont très longues désormais, dans l'intérêt des victimes, mais qui éloigne aussi les faits du moment où on va les traiter. Donc, ce qui rend encore plus difficile, peut-être, le traitement judiciaire de ces affaires. Mais je crois qu'il faut réfléchir sur ces dysfonctionnements, parce que le cas qui vient d'être évoqué par l'auditeur est un dysfonctionnement, manifestement. Alors, il y a la possibilité de faire un appel devant le procureur général de ce classement. Il y a la possibilité aussi, pour toute victime, de saisir directement un juge d'instruction ou directement le tribunal correctionnel, ce qui peut contourner le classement sans suite. Mais je crois qu'il faut travailler sur pourquoi ça a dysfonctionné. Voilà, je donne un exemple aussi, parce que je suis là pour expliquer un peu ce qu'on fait et ce qu'on peut faire dans un tribunal.
Absolument.
À Pontoise, voilà, on a pris 6 mois de classement sans suite, là, début d'année, sur ce qui était des violences faites aux femmes. Il n'y en avait pas beaucoup, heureusement, mais on a repris 6 mois de classement. Pourquoi on a classé sans suite? Et on les a retravaillés une à une. Pourquoi on a classé sans suite? Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement? Est-ce qu'on a manqué de preuves? Est-ce que il y a eu quelque chose qui légitimait le classement, ou est-ce que on n'était pas dans les clous? Donc il faut aussi qu'on prenne des exemples comme ça de dysfonctionnement pour retravailler sur notre fonctionnement et nos modes de fonctionnement.
Maître Lorénique.
Mais alors, dans ces conditions, est-ce qu'on pourrait pas appeler les plaignants, justement, pour leur rendre compte de ce travail-là et des raisons pour lesquelles l'affaire est classée sans suite? Parce que lorsque, alors là, en l'occurrence, la personne n'a même pas été avisée, mais quand la personne est avisée, c'est simplement un formulaire où il y a coché infraction insuffisamment caractérisée ou prescrite. Enfin, c'est quand même très dur et très inhumain de recevoir un formulaire comme celui-là. Est-ce que quelqu'un ne pourrait pas téléphoner pour expliquer les choses et qu'il y ait au moins un échange? Et alors, vous dites qu'on peut saisir soi-même le juge d'instruction. Saisir un juge d'instruction, c'est déposer une plainte avec constitution de partie civile, donc avec l'obligation d'avoir un avocat. C'est avoir au minimum 1 an et demi, voire 2 ans en tout cas, pour 1 an et demi pour avoir la désignation d'un juge, et ensuite encore 1 an avant qu'il vous entende. Donc je comprends que ça décourage, en fait.
J'aimerais qu'on dise quand même un petit mot, on a parlé des plaintes, on a parlé des classements sans suite, des condamnations. Pourquoi est-ce que les condamnations pour viol sont en baisse? Je vous donne des chiffres là aussi, entre 2009 et 2016, baisse de 40% des condamnations. Est-ce qu'il y a une explication, d'après vous? Quelle est la raison, Maître Lorénique?
Alors écoutez, moi j'ai pas du tout les mêmes chiffres.
Non. Le nombre de condamnations est en baisse, on est d'accord là-dessus?
Eh bien je sais pas. En fait, alors j'ai entendu que même Marlène Schiappa disait qu'il y avait 1% de condamnation après une plainte déposée, que les plaintes donnaient des condamnations à 1%. J'ai lu derrière que en réalité on ne pouvait pas savoir. Ce qui est très compliqué, c'est que quand on dépose une plainte pour viol, c'est compliqué de savoir ce qu'elle va donner, parce que elle peut donner une condamnation pour viol, mais elle peut aussi donner une condamnation pour agression sexuelle. Il y a des plaintes qui impliquent des mineurs, des majeurs. Enfin, c'est difficile de suivre une plainte et ensuite de la globaliser sur des statistiques. Et je crois que c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de statistiques. Et je pense pas que les condamnations soient en baisse. Enfin, pour fréquenter beaucoup les tribunaux, si les plaintes franchissent difficilement le premier crible et ce classement sans suite, lorsqu'elles sont ensuite dans les mains des juges d'instruction et dans les mains des tribunaux, je crois qu'ils condamnent quand même assez largement.
Éric Corbeau, vous avez...
Oui, je ne connais pas ces chiffres. et effectivement, il m'étonne, puisque on voit déjà que le nombre de plaintes et le nombre de procédures pour des affaires, et notamment depuis 2 ans maintenant, hein, on a vraiment vu une augmentation massive des plaintes pour agression sexuelle et pour viol. Il y a eu vraiment une libération de la parole, elle est effective, et on voit cette même libération de la parole en matière de violences faites aux femmes autres que sexuelles. Donc là-dessus, on a un vrai travail positif de cette libération de parole. Et donc, je suis pas non plus convaincu qu'on ait une chute aussi sévère, alors qu'on voit que les cours d'assises tournent, notamment dans les grosses juridictions, tournent quasiment en continu, et l'essentiel des dossiers qui sont traités sont des dossiers de viol. Voilà, je suis pas convaincu de ces chiffres. Pour ma part, ce qu'on peut constater, notamment au niveau des enquêtes, c'est qu'on a une augmentation des plaintes, une augmentation des dénonciations et une augmentation de l'activité sur ces sujets.
Alors, je voudrais vous demander, parce que l'émission va bientôt toucher à sa fin, quelles sont pour vous les priorités aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, notre arsenal juridique est suffisant ? Est-ce que c'est les moyens, la priorité des priorités ? Quelles sont les mesures à prendre aujourd'hui, Laure Hennick ?
Oui, les moyens pour réduire les délais, parce que je crois que ce qui est insupportable, c'est de déposer une plainte et puis de voir que 6 mois, un an et demi après, il ne s'est toujours rien passé. Donc les délais, la formation, effectivement, qu'on arrête de demander aux femmes ce qu'elles portaient comme vêtements, est-ce que vous aviez une jupe, madame, comme si cela pouvait avoir une quelconque incrimination, une quelconque participation à un viol. Et en fait, c'est tout un mouvement de la société, et c'est la société qui va réussir finalement à imprégner la justice et à faire que les choses vont changer.
Éric Corbeau.
Oui, je crois qu'il faut savoir nommer, il faut savoir former, il faut savoir agir et protéger. Je crois que c'est ça les points sur lesquels il faut vraiment travailler tous ensemble. C'est-à-dire que c'est vraiment toute la chaîne, avocats, magistrats, fonctionnaires, policiers, associations d'aide aux victimes. Voilà, c'est voilà. Ce travail en partenariat qui doit être développé et travaillé pour changer cette culture.
Vous avez raison de parler des associations. Il y a Geneviève de Strasbourg qui nous dit s'occupe d'une association qui prenait en charge les victimes et il n'y a plus de subventions. Bah voilà, ça fait partie ça aussi des moyens nécessaires. Un très grand merci Laure Hennick d'être venue ce soir. Éric Corbeau aussi, merci à vous. Merci à Sophie Parmentier. C'est la fin de ce Téléphone Sonne. Merci à vous tous de nous avoir appelés. Il y avait énormément d'appels ce soir au standard de France Inter. Je suis désolée pour tous ceux dont on a pu prendre l'appel, mais c'était malheureusement impossible. À la technique, Arnaud Caillé, Ludovic Asselot, Alexandre Chenet. Merci aussi à Amel Meyer qui a lu vos mails et aux standardistes de l'émission. Juste après les infos, Julia Foyce, passons, Jean. Bonsoir. On continue à parler des femmes, mais oui. Avec un autre sujet ce soir.
Ils disent aimer leur prochain, aiment-ils leur prochaine ? On va dire ça comme ça. Quelle est la place des femmes dans les religions ? Je peux juste vous dire un truc, c'est qu'elle n'est pas très enviable. Voilà.
À tout de suite, Julia Foyce.